Ta physique, père Philippe, 7 janvier 1983, Rimon.
Dans la Grèce antique, philosophie et science signifiaient la même chose, ou s'identifiaient. Aujourd'hui, on distingue volontiers la philosophie de la science et des sciences. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire de la pensée ? Ça, c'est une grosse question, tu vois ? Pour expliquer ce phénomène, qu'est-ce qui fait la spécificité propre de la philosophie par rapport à la science ? Grave question qu'on voit tout à fait dans le domaine de la qualité. Alors, comment ça s'est passé ? C'est par le domaine des mathématiques. Les mathématiques sont toujours un peu rivales de la métaphysique. Il faut toujours comprendre un peu ça. Il y a un petit peu une rivalité entre les mathématiques et la métaphysique. Une sainte rivalité, n'est-ce pas ? De fait, les mathématiques, vous savez ce que dit Aristote, les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Il ne faut jamais oublier que les mathématiques sont nées donc de la caste sacerdotale. Donc quelque chose de sacré en elles, n'est-ce pas ? Et il y a quand même quelque chose d'important. Les mathématiques, donc, c'est le premier développement d'une connaissance spéculative. Les mathématiques, avant les mathématiques, il y a l'art. Puis il y a les mathématiques. Et à partir des mathématiques, il y aura tout un rayonnement des diverses sciences. L'astronomie va naître des mathématiques. Et la philosophie va aussi se séparer des mathématiques, comme un au-delà des mathématiques. C'est très net chez Platon, et chez Aristote, il y a une distinction beaucoup plus nette entre mathématiques et philosophie. Mais les sciences modernes vont naître avec la physique. Alors là, ce serait intéressant de voir comment vont naître les sciences modernes à partir de la physique. C'est le domaine propre. Et on voit qu'à partir alors, des sciences modernes, le lien avec la philosophie va être de fait constamment un grand problème. Descartes va fonder sa philosophie, va donner sa philosophie pour fonder les mathématiques. Et Kant, c'est la physique et la philosophie. Husserl, c'est les sciences et la philosophie. C'est très très curieux, hein, le domaine de la science va jouer comme une recherche constante à l'intérieur même du domaine de la pensée. On comprend que le prototype, d'une certaine manière pour nous, des sciences modèles, c'est les mathématiques. C'est un peu le prototype. Aristote va, lui, donner un très gros coup de poing sur la table en disant « Non, la science modèle, c'est pas les mathématiques, c'est la philosophie première. » C'est un fameux coup de poing, n'est-ce pas, qui fait qu'à partir de là, il y a eu une réaction violente contre cette philosophie première. Parce qu'on ne touche pas impunément aux mathématiques. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Il faut avoir toujours beaucoup de respect vis-à-vis des mathématiciens. Il faut toujours les envelopper avec beaucoup de respect. Ça. Parce que c'est vrai, s'il faut pas, il ne s'agit pas de dire ce n'est rien. Non, pas du tout. C'est la cause exemplaire de la science, de la connaissance spéculative. C'est la cause exemplaire. Où, de fait, la philosophie va dépasser, c'est parce qu'elle va découvrir la finalité. Une philosophie qui ne découvre plus la finalité se met directement sous la dépendance des mathématiques. Et c'est normal. Alors c'est pour ça que c'est toujours le lien entre la causalité exemplaire et la causalité finale qui nous permet de découvrir la différence qui existe entre le point de vue de la philosophie et le point de vue des mathématiques. Mais c'est les mathématiques qui demeurent, au point de vue noblesse de connaissance, ce qui a la plus grande noblesse dans l'ordre de la certitude. Dans l'ordre de la certitude. C'est pour ça que Descartes ne cherche plus la vérité, mais la certitude. Et quand je suis dans l'ordre de la certitude, c'est bien évident que c'est les mathématiques. Parce que du côté de la cause exemplaire, les mathématiques l'emportent. C'est ce que Husserl a très bien compris. Mais alors il a oublié la causalité finale. Et au fond, c'est perpétuellement le grand problème, si vous voulez, critique. Le grand problème critique, c'est fatalement ce problème des rapports entre la science et la philosophie. C'est là où on est au cœur du problème critique. Et la critique existe pour redonner à la philosophie première son titre de sagesse. Parce qu'elle atteint la fin. Et vous voyez, c'est là où la philosophie première et l'éthique sont toujours liées. Parce que si il n'y a plus d'éthique, très vite, la causalité finale risque de se perdre. Et alors, quand la causalité finale se perd, le point de vue de la causalité exemplaire redevient première, et quand la causalité exemplaire redevient première, c'est les mathématiques qui passent avant. Ça, l'histoire de la pensée nous montrerait d'une façon très nette. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il faut comprendre que, de fait, c'est très vrai, que les domaines mathématiques représentent un domaine de noblesse de l'intelligence très très grand, où la certitude pour nous est la plus proche, la plus évidente. Et donc il y a une espèce d'inclination normale vers les mathématiques, une inclination normale vers les mathématiques, à cause de la noblesse des mathématiques, cause exemplaire. Il faut sentir la séduction des mathématiques au niveau connaissance spéculative, pour bien sentir ce que représente la causalité exemplaire. C'est par les mathématiques qu'on comprend le mieux ce point de vue de la causalité exemplaire. La mathématique est l'art, hein, vous comprenez bien. Ce sont les domaines du possible. Le possible de l'inspiration n'est pas le possible du mathématicien. Il y a deux espèces de possibles. Et puis il y a le troisième possible qui est le possible au niveau ontologique et au niveau philosophie première. Donc quand je parle du possible au niveau de l'inspiration, comprenons bien, c'est le possible de l'inspiration. Puis il y a un possible au niveau mathématique, et il y a un possible métaphysique, et il y a un possible logique. Alors c'est un très gros problème, hein, je n'entre pas dedans, mais au point de vue critique, comprenez qu'il y a ces diverses modalités du possible. Et ces diverses modalités du possible sont très importantes à comprendre. Si je ne comprends pas la diversité de ces modalités du possible, je n'entre pas dans le problème métaphysique. Je n'entre pas entre la différence entre le point de vue philosophique et métaphysique et le point de vue mathématique. Mais si vous arrivez à la fin de l'année, n'est-ce pas, au bout de première année de philosophie, à comprendre un peu la différence entre la philosophie métaphysique et les mathématiques, c'est déjà très beau. Et si au terme de vos études philosophiques, vous arrivez à discerner parfaitement la distinction entre le domaine mathématique et le domaine philosophique, vous êtes sauvé. Mais c'est difficile, c'est très difficile dans le contexte d'aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'il faut tout le temps jouer au point de vue philosophique entre les mathématiques, le domaine philosophique métaphysique et le domaine artistique et l'éthique. Il faut arriver, on n'a pas le droit d'abandonner ces différentes matières. Si vous abandonnez une de ces différentes matières, il y a quelque chose que vous ne comprendrez pas. Il faut que les mathématiques restent toujours là pour nous comme un domaine spéculatif modèle de la plus grande certitude. De la certitude pour nous la plus comme naturelle. Les mathématiques sont comme naturelles à l'homme. Les anges ne font pas beaucoup de mathématiques. Je ne sais pas, les démons, ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est leur petite béatitude, n'est-ce pas, de pouvoir faire des mathématiques encore dans l'enfer? C'est possible que Dieu leur laisse par miséricorde la possibilité de faire des mathématiques. C'est possible, c'est possible. Les mathématiques lucifériennes seraient intéressantes à lancer, ça. Vous voyez, ce serait un très beau titre. Les mathématiques lucifériennes. Alors, il y a un contexte des mathématiques possibles aux enfers. C'est possible. Tandis qu'il ne peut plus faire de métaphysique. Interdiction. Il n'a plus d'éthique. Interdiction. La causalité finale ne pénètre pas aux enfers, mais la causalité exemplaire pénètre aux enfers. Et donc il n'y a rien d'impossibilité que, de fait, dans ces délassements, Lucifer fasse des mathématiques. N'est-ce pas ? Comme il peut faire de la logique. Parce que la causalité exemplaire demeure. Alors vous voyez comment on doit distinguer aujourd'hui le domaine de la philosophie du domaine de la science. Causalité finale, causalité exemplaire. Deuxièmement, je vais mettre ça comme ça. Alors, la causalité finale, philosophie, et philosophie première. Ça saute avec le point de vue philosophie première et l'éthique. Je ne peux pas faire une vraie philosophie première sans l'éthique, et je ne peux pas faire une véritable éthique sans philosophie première. C'est le domaine propre. Et puis, cette causalité finale implique le jugement d'existence, qui est propre à la philosophie première et à l'éthique. Tandis que la causalité exemplaire, c'est le domaine mathématique. Les mathématiques, quand Aristote dit que les mathématiques regardent le beau, c'est ça qu'il veut dire. Hein? Causalité exemplaire, les mathématiques. Le beau, l'harmonie, l'ordre, le point de vue du possible. Et donc, les mathématiques ne reposent pas sur un jugement d'existence. Le jugement d'existence en mathématiques est mis entre parenthèses. L'upoké du jugement d'existence. Le jugement d'existence est télescopé. Je crois que c'est les deux aspects par lesquels nous pouvons distinguer le mieux le domaine des sciences. Parce que le domaine des sciences doit tout le temps se rapporter au domaine mathématique. Tout le temps. Et c'est pour ça que je prends les mathématiques, parce que c'est le prototype. Alors il vaut mieux tout de suite regarder dans le prototype. Si vous regardez les sciences humaines, les statistiques, vous comprenez, vous êtes loin des mathématiques, et les mathématiciens regardent ça avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, en disant, très bien, je sais ce que ça veut dire, hein. C'est pas un domaine très scientifique. Tandis que les mathématiques restent la noblesse d'une intelligence rationnelle. Alors je dirais que c'est la raison. La noblesse de la raison, c'est les mathématiques. La noblesse de la raison, c'est les mathématiques. Et la noblesse de l'intelligence, de l'intellectus, c'est la philosophie première et l'éthique. Alors vous avez raison et intellectus. Vous voyez ? Et alors dans la mesure où l'intellectus va se ramener à la ratio, ce qui va se faire chez Descartes, le domaine des mathématiques et le domaine de l'intelligence ne va plus pouvoir se faire. Et je mets les points de mire comme ça, parce que je crois que c'est important de saisir ces points de mire, ces axes de pensée. Et il faut toujours saisir cela. Donc, le jugement d'existence qui fait que la philosophie première et l'éthique demeure toujours en présence de ce qui est, et donc de l'homme. C'est l'homme concret que je regarde en philosophie première et en éthique. Tandis que les mathématiques mettent entre parenthèses le jugement d'existence, mettent entre parenthèses l'homme. L'homme est mis entre parenthèses. Le mathématicien ne s'intéresse pas à l'homme. Il s'intéresse dans le domaine des possibles, dans le domaine des relations possibles. C'est ce domaine-là. Pas la relation prédicamentale, mais la relation qui est donnée dans le domaine de l'intelligibilité des possibles. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que le mathématicien pourra regarder des théorèmes, tandis que la philosophie première et l'éthique saisissent les causes propres. Les causes propres de ce qui est. Alors vous voyez par là tout de suite comment la philosophie première et l'éthique vont nécessairement, par le jugement d'existence, découvrir en premier lieu la qualité, tandis que le domaine des mathématiques ne regarde pas en premier lieu la qualité. Alors, autre question. Pourriez-vous reprendre la distinction chez Aristote entre exis, diathesis et pathos? Comment peut-on distinguer exis et diathesis de par la détermination selon la cause formelle et finale? Et comment peut-on distinguer exis et pathos sans que pathos reste au niveau sensible? Alors, comprenons bien. La première distinction qu'Aristote fait au niveau qualité, c'est une distinction très importante. Ceux qui ont suivi le cours de théologie tout à l'heure savent que cette distinction est reprise par saint Thomas pour exprimer les deux grandes dimensions de la grâce. Alors, c'est intéressant, parce que la grâce, c'est la qualité des qualités. Alors, on comprend comment on se sert de cette distinction exis et diathésis. Alors, je reprends ici, exis, pour Aristote. La première qualité, c'est exis, traduisez habitus, en latin. En français, à la manière de Bossuet, la disposition stable, l'habitus, disposition stable. Mais ça ne va pas, vous voyez, parce qu'on dit, on prend diathésis pour définir exis. Puisque diathésis, c'est la disposition. Alors, traduisons donc exis, si vous voulez, une détermination, un pli, puisque l'exis est toujours reçu dans une puissance, opérative, ou reçu dans la complexité du pos de la substance, du comment de la substance. Pour Aristote, la beauté est une exis entitative. La beauté. C'est entre l'exis et la diathésis. Parce que ça peut disparaître. On peut être beau à 4 ans et ne plus l'être à 15 ans. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça. Il y a des beautés d'enfants qui sont extraordinaires, merveilleuses, des petites fleurs, et puis elle est gelée. Alors on retrouve une fleur fanée à 15 ans. C'est ennuyeux, c'est comme ça. C'est pas nécessairement la beauté de l'enfant de 4 ans. Il faut vite la photographier, hein, pour qu'elle soit exis, stabilisée. N'est-ce pas? Parce que ça peut disparaître. C'est comme les petits génies de 4 ans. Il y a 15 ans, des gelées tardives, ils font qu'il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Ça peut arriver, ça. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'habitus et d'exis au niveau du corps, au sens absolu. Ce n'est qu'au niveau de l'esprit, des puissances spirituelles, d'intelligence et de volonté. Seuls peuvent avoir des exis, des habitus au sens très très fort. Donc, l'habitus, c'est un pli stable, un pli parfaitement déterminé, qui permet à la puissance de pouvoir opérer d'une manière plus parfaite. Donc, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la nature de la faculté, de la puissance, pour lui permettre d'être plus elle-même. L'exis est toujours au service de la nature. Et parce que l'exis est toujours au service de la nature, l'exis est toujours finalisé. C'est propre de l'exis. L'exis est finalisé. Il est orienté, il oriente vers le sens de la nature. Or, la nature est orientée, est déterminée, est finalisée. Un exis dans l'intelligence permet à l'intelligence d'acquérir plus vite et mieux et plus profondément la vérité. Oui, donc, elle permet à la nature d'être plus finalisée. La nature n'est pas entièrement finalisée, elle a besoin d'exis qui viennent s'ajouter pour qu'elle soit mieux finalisée. Tandis que la diathésie se prend du côté de la matière. Je crois que c'est la grande différence entre exis et diathésie. L'exis se prend du côté de la finalité, ça vient déterminer la nature en vue de la finalité, pour permettre à cette nature c'est la puissance, pour permettre à cette puissance d'être mieux finalisée, donc d'atteindre davantage ce pour quoi elle est faite. Donc l'exis est ordonné à la perfection de ce qu'elle détermine, de celui qu'elle détermine. La diathésis, au contraire, se prend du côté de la matière. La diathésis, elle est en recherche. Elle n'est jamais parfaitement déterminée. L'exis est parfaitement déterminé par la fin. On est parfaitement déterminé en fonction de la fin. Et seule la fin détermine parfaitement. Tandis que la diathésis, c'est de l'ordre de la recherche. C'est de l'ordre du côté de la matière qui vient préciser les indéterminations de la matière pour que cette matière disposée puisse recevoir davantage ce qui est son bien. C'est donc moins déterminé. C'est en joie. C'est à l'état embryonnaire, si vous voulez. On pourrait dire ça, on pourrait dire que la diathésie, c'est à l'état embryonnaire l'exis, d'une certaine manière. Avant d'acquérir une exis, vous acquérez toujours une disposition. Toujours. C'est très rare d'acquérir immédiatement l'exis en mathématiques. C'est le domaine des mathématiques. C'est le privilège des mathématiques. Ça aussi, c'est un privilège des mathématiques. C'est qu'on passe tout de suite. C'est en ce sens-là qu'on parlera de la bosse mathématique. Parce qu'on verra que ceux qui pigent et ceux qui pigent pas. On dira, oh, c'est pas la peine de chercher, vous n'y comprenez rien. Bon, c'est pas la peine de chercher. Là, oh, très bien, oui, ça c'est très bien. Oui, alors, on fait une élite mathématique. Ça, c'est forcé. Ça pousse vers ça. Parce que c'est tout de suite l'exis. C'est très curieux, ça. Et c'est propre de ce domaine de l'intelligence rationnelle dans le domaine mathématique. Tandis que lorsqu'il s'agit, par exemple, des vertus, vous n'acquérez pas tout de suite l'exis. Hein. Vous faites un acte de vertu par jour, un acte de obéissance par jour. Il faut du temps avant d'acquérir l'humilité. D'avoir l'exis de l'humilité. Hein. Il faut du temps. Ordinairement, on est dans une recherche. On est dans une recherche. Donc, il y a la diathésis. Avant d'acquérir l'exis vertueuse, parce que la vertu, c'est une exis, puisque c'est du côté de la finalité, il y a la diathésis. Et il y a beaucoup de diathésis. Il y a des actes imparfaits. J'en mets beaucoup avant d'arriver à ça. Tandis que dans le domaine mathématique, dans le domaine de l'art, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de recherche. Là aussi, le domaine diathésie, c'est beaucoup plus d'ordre naturel. Il y a des gens qui sont aptes à, capables de, donc qui ont des dispositions. Ayant des dispositions, l'habitus va se greffer beaucoup plus vite. Un artiste va beaucoup plus vite être un artiste qu'un homme vertueux. C'est vrai, ça explique pourquoi on s'incline vers l'art plutôt que vers la vertu, parce que ça met du temps, les vertus. Et puis, c'est pas déterminé de la même façon. C'est beaucoup moins net. L'art est beaucoup plus net que l'ordre de la vertu. La vertu, c'est toujours un peu en recherche. Et puis, ça change selon les moments. Tandis que l'art, non, est beaucoup plus indépendant. Il y a une indépendance de l'art parce que l'art est exis de l'intelligence. Et la diathésis est beaucoup plus souple. Elle est du côté de la matière. Alors, c'est pour ça qu'on dira, pour distinguer l'exis de la diathésis, que l'exis est difficile mobilis. C'est un mot très joli, n'est-ce pas ? Difficile mobilis. C'est-à-dire que quand j'ai l'exis, je l'ai pour ma vie. Quand vous avez l'habitus mathématique, vous l'avez pour votre vie. Ça reste difficile mobilis. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être dépassé. Hein? Mais c'est difficile mobilis. Ce sont des plis qui sont très très forts dans l'intelligence. C'est la même chose pour l'art. Ce sont des plis extrêmement forts de l'intelligence. Un artiste reste toujours un artiste quand il a vraiment exercé son art. Il reste un artiste parce que difficile mobilis. Tandis qu'au contraire, la diathésis, facile mobilis. La diathésis, elle est du côté de la matière et donc ça se perd. Ça se perd. C'est pour ça que j'ai fait des efforts de vertu pendant 6 mois, j'ai vu que c'était impossible. Pendant 6 mois après, je fais la noce et je perds toutes mes diathésis. Oui, c'est évident que c'est comme ça que ça se passe. Je fais des efforts d'être humble pendant 6 mois, je vois que c'est très difficile, non, c'est pas fait pour moi du tout, je ne suis pas fait du tout pour ça. Alors tant pis. Et puis ils verront. Alors l'orgueil qui repasse. Alors on voit très bien que c'est toujours comme ça. Les vertus sont toujours à acquérir. Les vertus tendent vers l'exis. Mais chez nous, c'est toujours un peu des diathésis. Toujours un peu. Toujours un peu de l'ordre de la disposition. Parce que les vertus demandent d'être toujours un peu plus vertus. Et ça met du temps. Et c'est pas commode. Tandis que l'art, tandis que les mathématiques, tandis que la métaphysique, c'est exis. Vous mettez du temps à acquérir l'exis philosophique, mais une fois que vous l'avez acquis pour votre vie. Ça, absolument. On est de l'ordre de l'intelligence. Oui. Comme l'art. C'est les vertus intellectuelles sont les vertus les plus inflexibles. Ça, c'est sûr. Les vertus les plus inflexibles. Tandis que les vertus qui sont du côté affectif, c'est les vertus qui sont ordinairement acquises d'une manière imparfaite. Alors la diathésis joue un rôle très important. Oui, c'est pour essayer de comprendre la différence entre diathésis et exis. Et je crois que le mieux, c'est de comprendre que l'exis est toujours finalisé. Ça me rejoint à la fin. Ça me relie à la fin. C'est un pont vers la fin. Tandis que la diathésis me relie du côté de la cause matérielle, du sujet qui reçoit ça. Et c'est pour ça que dans certains domaines, alors normalement, les domaines de l'exis impliquent qu'on touche des principes. Et la diathésis, au contraire, est du côté du devenir. Alors ça, c'est ce sont des problèmes qui sont très intéressants, de savoir si, par exemple, il y a une science historique, ou est-ce que la science de l'histoire reste toujours une discipline. La discipline est du côté de la diathésis. Elle n'est pas du côté de l'exis. Oui, la méthode, j'ai une méthode historique. La méthode, c'est du côté de la diathésis, c'est du côté de la matière. Ça, c'est sûr. Avoir une méthode, c'est organiser la matière. C'est pour ça que celui qui a l'exis a un mépris souverain de l'exis. Ça, c'est la matière. Vous l'organisez comme vous voulez. Fichier matériel. Alors, il y a plus, hein. Chez les grands historiens, il y a un art. Voyez la vie de Jeanne d'Arc, hein. Parce que là, on voit très bien, c'est pas uniquement l'historien, il y a quelque chose de plus. Il y a un art. Il y a un art de montrer qu'on s'appuie sur des documents, et puis il y a un art de montrer qu'on dépasse les documents. Et alors, on refait vivre quelqu'un. Ça, c'est l'art. Et c'est pour ça que je crois que les grands historiens, c'est de l'art. C'est pas de l'art, c'est pas de la science. Non, non, pas du tout. La science, elle est très pauvre, hein. Ce sont les documents, c'est très pauvre. Tandis que se servir des documents, les interpréter, saisir le sens d'une époque, ah, ça c'est artistique. Et pouvoir le communiquer. Alors c'est ça, c'est tous les domaines très importants où il y a exis et diathésis, hein. Les deux domaines qui sont entre les deux. Un véritable historien demande un sens de la méthode qui est du côté de la diathésis, du côté de la matière qu'on organise, et puis l'artiste qui saisit ce qui peut être donné d'une manière artistique. Alors, le troisième, le pathos, c'est le fait de pâtir, hein. On pâtit. La capacité qu'on a de pâtir. Alors, voyez, le pathos est proche de la diathésis, hein, forcément. Puisque l'exis, la diathésis est du côté de la matière, donc de celui qui est capable de pâtir. C'est un être en puissance qui est capable de pâtir. Et il a une diathésis, parce que c'est justement pour permettre d'organiser son point de vue, si vous voulez, de tout ce qui est en lui de potentiel. Alors, le pathos se prendra beaucoup plus du côté affectif. Et normalement, le pathos est lié au sensible. On ne parlera pas de pathos au niveau spirituel, dans le langage d'Aristote. Le pathos est toujours... Alors, vous allez me dire, ah non, puisque Aristote parle du pathos au niveau du concept. Dans le Périrménéas. Il parle du pathos, il dit que l'âme pâtit. Et que l'âme pâtit, c'est vraiment le concept. Pâtit par l'objet. Alors, vous voyez, on transpose là le pathos au niveau du concept, donc au niveau de l'intelligence, au niveau spirituel. Donc il faut dire que le pathos est premièrement du côté sensible, mais que je peux le retrouver du côté spirituel. Comme ce qui est capable de recevoir l'empreinte. On reçoit l'empreinte de l'objet. Et recevoir l'empreinte de l'objet, c'est pâtir. C'est pâtir à l'égard de l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas d'être objectif. Parce que quand vous êtes objectif, vous pâtissez. Vous reconnaissez que vous êtes relatif à l'objet. Tandis qu'on aime mieux la subjectivité transcendantale parce qu'on domine. Hein? Ça explique ça, vous savez. Faire que notre intelligence, l'intellect passif, l'intellect qui reçoit, qui est capable de pâtir. Donc, un intellect qui est capable de pâtir, c'est un intellect qui reconnaît qu'il est second. Et que l'objet est premier. Et que l'objet seul détermine. Et que l'intellect par lui-même est réceptif. Donc, pathos, c'est la capacité de réceptivité. Alors, la capacité de réceptivité se prend du côté matériel. Alors, on peut dire diathésis et pathos se prennent du côté matériel. Alors, vous allez me dire, quelle différence y a-t-il entre diathésis et pathos? C'est que diathésis est pris ordinairement comme des dispositions naturelles. Tandis qu'on ne dira jamais que pathos est quelque chose de naturel. Vous n'avez pas de pathos naturel. Le pathos est toujours quelque chose qui vient s'ajouter.
Est-ce que la diathésie n'est pas beaucoup plus pour le vivant et le pathos pour la réalité physique?
Pas toujours, puisque vous l'avez au niveau de l'intelligence. Oui. C'est pour ça que c'est pas. Je crois que pathos, c'est ce qui vient de l'extérieur qui agit sur moi. Donc il y a toujours dans le pathos un élément de violence. Tandis que dans la diathésis, non. La diathésis pousse de l'intérieur. Je ne suis pas sous l'influence d'un autre dans la diathésis. Tandis que dans le pathos, je suis sous l'influence d'un autre. Oui. C'est l'autre qui agit sur moi. Et l'autre agissant sur moi fait que je pâtis. Et donc c'est le pathos. Le pathos, c'est le résultat de l'autre qui agit sur moi. Alors, c'est plus déterminé que la diathésis. La diathésis, c'est d'ordre de la disposition. Il y a plus un ordre dans la diathésis. Il y a un ordre. Diathésis. Tandis que dans le pathos, il n'y a pas d'ordre. C'est quelque chose de plus ponctuel, comme on dirait aujourd'hui. Le pathos est plus ponctuel et diathésis est plus ordonné. C'est plus du côté d'un ordre qui se cherche. Et qui vient de la cause matérielle qui se cherche, mais qui n'est pas encore finalisé, pleinement finalisé. Il sera pleinement finalisé que grâce à l'exis. Tandis que je ne peux pas mettre le même ordre entre pathos et exis. Le pathos comme tel est subi l'influence d'un autre. Je crois que c'est ça qu'on doit dire. Ça subit l'influence d'un autre. Alors, encore d'autres questions? Après la qualité, pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier le lieu et le temps? Ça, c'est autre chose. L'être du mal est-il bon? On ne peut nier l'existence du mal et nier la bonté de l'être comme justement propriété de l'être en tant que tel. Par l'exister du mal, que je constate, l'être est-il absolument bon? Alors, ça, c'est toute l'étude du mal. Je ne la fais pas ici, l'étude du mal, vous voyez? Je ne peux pas la faire au niveau des catégories. Je peux faire l'étude du mal qu'au niveau de la puissance. Je ne peux pas saisir le mal au niveau catégorial. Au niveau des catégories, je ne peux pas saisir le mal. Tandis que je peux saisir le mal au niveau de la potentialité, l'être en puissance. L'être en puissance a une capacité d'être mauvais. L'être en acte n'a plus de capacité d'être mauvais. Soyez de plus en plus en acte, vous serez meilleur. Actuez de plus en plus vos virtualités, vous serez meilleur. Tandis que quand on se laisse dans un état de potentialité, on est ouvert à tous les microbes. N'est-ce pas? Ça c'est sûr. Un être qui ne se défend plus, un être qui est fatigué, il ne se défend plus, et alors il reçoit tous les microbes. Il se donne le mot. Alors, il passe tout cela. C'est un terrain merveilleux. Tu vois? Tandis qu'au contraire, l'être qui est agressif et qui est toujours dans cet état de lutte, est toujours en acte, il les renvoie promener. C'est vrai, il y a une espèce d'agressivité qui est bonne, hein, qui est une agressivité par rapport au mal, qui fait qu'on rejette le mal. Donc, vous voyez, le problème du mal, c'est le problème entre la potentialité et l'acte. C'est parce qu'il y a une distinction entre l'être en puissance et l'être en acte qu'il peut y avoir le mal. Tandis que je n'explique pas le mal entre la distinction entre la substance et la qualité. Non, je ne peux pas. Donc, le problème du mal ne s'explique qu'au niveau de la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance. Or, nous sommes ici dans la métaphysique des catégories et de l'au-delà des catégories. Donc, je ne parle pas maintenant du mal. C'est possible que vous en parliez, vous avez la raison, mais je ne peux pas traiter tous les problèmes en même temps que tous les problèmes, vous voyez. Alors je suis obligé de cerner, et c'est très important du reste, de voir à quel moment un problème se pose, philosophiquement parlant. Parce qu'au point de vue de mon expérience, j'ai mal aux dents aujourd'hui, on parle de la substance. Donc que la substance explique mon mal de dents. Bien, je dirais le problème de la substance n'explique pas le mal de dents. Vous cherchez bien, vous n'arriverez jamais à découvrir le mal de temps par le problème de la substance. Impossible. Alors vous allez répondre, donc la substance, ça ne sert à rien, puisque ça n'explique pas mon mal de temps. Vous êtes autre chose que le mal de temps. Vous existez. Et le problème de la substance explique l'exister, qui est quelque chose de plus fondamental que le mal. C'est pour ça que l'exister peut supporter le mal. Et le mal peut exister dans un sujet donné. Parce que c'est quelque chose de plus fondamental, l'exister. L'exister est au-delà du mal. Les démons existent, dans les temps des démons. Ils existent. Ce qui montre bien que l'exister comme tel est au-delà du mal. Et l'exister est au niveau de la substance. Donc, quand je suis au niveau de la substance, je suis au-delà du mal. Il n'y a pas encore de mal. Au niveau des catégories, il n'y a pas le mal. Vous ne mettez pas comme 11e catégorie le mal. Vous mettez 10 catégories positives. Et vous mettez la passion, c'est très vrai, mais la passion n'est pas un mal. Bon, alors continuons si vous voulez. On reste combien de temps encore ? Celui qui t'a trouvé 10 minutes. Très bien, alors on a le temps. Si vous avez 3 minutes, vous comprenez, ce n'était pas le temps de démarrer. Alors, on va continuer le problème de la qualité. On va plutôt entrer dans le problème philosophique de la qualité. Le problème métaphysique de la qualité. Vous comprenez, si je parlais en éthique de la qualité, je ne parlerais pas de la même manière que maintenant. Vous comprenez bien ça, hein ? En éthique, la qualité, ce serait le problème de l'acte bon. Ce serait donc tout de suite le problème de la bonté morale. Tandis qu'en métaphysique, en philosophie première, le problème de la qualité n'est pas du tout le problème de la bonté. C'est autre chose. La qualité existe au-delà de la bonté d'un être. C'est possible que grâce à cette qualité, il soit bon, oui. Mais la qualité existe au-delà, elle est beaucoup plus vaste. Alors, la qualité au plan philosophique, première constatation, c'est qu'il y a vis-à-vis de la qualité une connaissance immédiate. Et ceci, c'est très très frappant, ce qui montre combien je suis proche de la qualité. Je suis ému des qualités. Parce que les qualités, et c'est vrai, on est ému des qualités. Les qualités d'un être, il n'y a rien de plus émouvant. De regarder la qualité d'une fleur, comme c'est émouvant. La qualité d'un petit oiseau. C'est vrai, la qualité des animaux. La qualité de l'hippopotame. C'est quand même très émouvant. C'est un animal qualitatif, l'hippopotame. Comme tous les animaux, du reste. Tous les animaux ont des qualités qui sont différentes. La qualité m'émeut. Toujours. Pourquoi ? Parce que c'est par là que je connais un être. C'est par sa qualité qu'il est le plus proche de moi, de ma connaissance. La qualité est un domaine du dévoilement de l'être. Et je dis exprès ça, une philosophie du dévoilement de l'être comme la philosophie heideggerienne, c'est une philosophie de la qualité. Parce que la qualité manifeste l'être, dévoile l'être. La qualité me permet d'être directement et immédiatement en contact avec une réalité sensible. C'est pour ça que les qualités tout à fait premières, ce sont les sensibles propres. Les sensibles propres, c'est les qualités tout à fait premières. Les sensibles propres me permettent d'être en contact direct avec la réalité. Et ces sensibles propres me détectent, me manifestent, me dévoilent. Mais le premier dévoilement, c'est vrai, le premier dévoilement de la réalité, c'est les sensibles propres. Et parmi ces sensibles propres, quel est le premier sensible propre? La philosophie première cherche toujours ses premiers. Alors ça serait très intéressant. Eh bien, c'est la lumière. C'est pour ça que c'est la lumière qui m'émeut le plus. C'est la lumière. Il n'y a rien de plus émouvant que la lumière. L'aurore, le crépuscule, le plein midi. Très, très émouvant. Une journée où je reste sans lumière. Vous voyez comme c'est éprouvant. Je sais très bien qu'il y a toujours une lumière tamisée. Alors, pour les gens, il y a certains qui aiment mieux la lumière tamisée. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la lumière. Ça peut être éprouvant de supporter la lumière. Mais alors, c'est le sensible propre numéro un. C'est le sensible propre de la vision. Et je crois que la vision demeure le point de vue de la sensation première. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais ça c'est autre chose. On est dans le domaine surnaturel. On est. Mais c'est pour ça qu'il prend la lumière. C'est que du côté de la connaissance, c'est la lumière qui est le premier analogue pour nous. La lumière est le premier analogue. On est dans le domaine sensible, c'est la lumière. Mais alors quand on transpose lumière, ça c'est un très gros problème au point de vue théologique, quand je transpose la lumière, est-ce que je suis en présence d'une analogie propre ou d'une analogie métaphorique? Ça, c'est un très très gros problème. Est-ce que la lumière peut être une analogie propre? Ou est-ce que c'est une analogie métaphorique, c'est-à-dire une analogie qui reste toujours liée au sensible? Quand je dis que le Christ est la lumière du monde, je prends le mot lumière. C'est très très significatif. Il dit Dieu est lumière. Alors est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est une analogie propre? Ça c'est une très bonne colle à donner à tous les théologiens modernes. Parce qu'ils ne sauront pas répondre. Ça j'en suis sûr. C'est déjà très difficile quand vous connaissez bien votre philosophie et que vous connaissez bien saint Thomas. Est-ce que lumière est une analogie? J'aimerais beaucoup. Je vous donnerai 5 minutes de réflexion, peut-être sur un petit bout de papier, et c'est une analogie propre ou une analogie métaphorique. Je crois qu'il y aurait évidemment beaucoup de gens qui ont un point d'interrogation. Je ne sais pas. Vous avez tous les jours l'expérience de la lumière et vous ne savez pas si la lumière est une analogie métaphorique ou une analogie propre. Vous savez, comme vous avez peu réfléchi sur votre expérience. Alors, tous les jours, vous vous éveillez à la lumière. C'est extraordinaire. Tous les jours, nous avons cette expérience de la lumière. C'est l'expérience première de l'enfant. Il s'éveille à la lumière du jour. Première fois, il ouvre les yeux. Songez la première fois que vous avez ouvert les yeux et vous avez vu la lumière. C'est extraordinaire. C'est la lumière et c'est la dernière expérience que vous aurez. Vous fermerez les yeux. Dernière lumière que vous aurez. Et puis, ça tombera. Les paupières tomberont, il n'y aura plus de lumière. Il n'y aura plus de lumière sensible, les sensibles. Il y aura l'autre lumière qui s'ouvrira à ce moment-là. Et donc on passera de l'un à l'autre. Ici, sur la Terre, on se pose la question, est-ce que la lumière est une notion analogique propre ou métaphorique? Ce qui est sûr, c'est que c'est la qualité première. Ça, c'est assez extraordinaire. Théilhard et saint Thomas d'Aquin sont d'accord. Alors ça, c'est merveilleux. Hein? Donc, il faut être sûr que c'est l'impact le plus puissant. Pour que Théilhard et saint Thomas d'Aquin sont d'accord là-dessus, on peut dire donc qualité, la première qualité. la qualité première, c'est la lumière. Ah, ils sont plus d'accord quand il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que la lumière. Hein, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est différent. Mais de reconnaître, par le point de vue de la connaissance immédiate, la connaissance immédiate. Vous avez une connaissance immédiate de la lumière. Par votre vision, vous avez une connaissance immédiate. C'est la plus grande des évidences. Comme qualité sensible, comme qualité propre. Qu'est-ce que vous avez après ? La qualité la plus fondamentale après, c'est la quoi ? Ah, chaleur. Lumière et chaleur hein, expriment les deux qualités les plus extrêmes. Parce que la chaleur, c'est le toucher. Je ne dis pas le feu, hein, parce que le feu, c'est un sens hyperaccidens. Et donc, ce n'est pas une qualité. Le feu représente autre chose. Tandis que je prends la chaleur. La chaleur, c'est quelque chose que j'atteins immédiatement. Alors évidemment, il y en a qui seront sensibilisés à le froid. Ça, ça dépend où on est né. Il y a des hommes du froid et des hommes de la chaleur. Ça, il y a des hommes chauds et des hommes froids. Les Nordiques sont froids. Et les gens de l'équateur sont chauds. Ça, il y a la chaleur et le froid. Je ne dis pas ça pour la lumière, hein. Je ne dis pas qu'il y a des âmes de ténèbres. Vous voyez comme c'est curieux, hein. Dès que vous êtes en phase de toucher, mais la chaleur est quand même positive, et le froid est plutôt négatif. Pourquoi ? Parce que le vivant est plutôt chaud que froid. Le sang chaud et le sang froid, vous savez, les catégories anciennes, ça, du sang chaud et du sang froid. Alors c'est intéressant de voir ça. De voir les deux, et c'est vrai, c'est les deux qualités. Donc voilà le domaine de la qualité. La qualité est premièrement le dévoilement de l'être. Et le premier dévoilement de l'être, c'est la lumière. Et je retrouve Heidegger. Pour Heidegger, la lumière est le dévoilement de l'être. L'être est lumière. Je crois que quand Heidegger le dit, c'est une analogie métaphorique. Tandis que quand le Christ dit « Je suis la lumière du monde », je ne crois pas que c'est métaphorique. La différence entre Heidegger et l'affirmation « Je suis la lumière du monde ». Parce que quand Heidegger dit que le dévoilement de l'être, c'est la lumière, c'est très beau du reste. Hein, et quand il joue sur Licht et Lichtung, il prend le point de vue de la lumière comme telle et dans une forêt, ce qui conduit à la lumière. Alors ce qui conduit à la lumière... C'est les autres aspects, les grands axes qui conduisent à la lumière. Au fond, tout est là pour lui. L'être, c'est le dévoilement de l'être, la lumière. C'est très beau, c'est très beau. C'est le sensible propre qui dévoile l'être. L'être est dévoilé en premier lieu par la lumière. Il est dévoilé aussi par le chaud, la chaleur. Et alors, vous avez tous les sensibles propres qui donnent les qualités, les premières qualités de l'être. Vous avez donc, dès le point de départ, puisque vous avez cinq sens, vous avez donc cinq dévoilements de l'être. Et la qualité a cinq manifestations de l'être. Les cinq épiphanies de l'être. Et les cinq épiphanies de l'être, c'est les cinq sensibles propres qui me donnent les qualités. Et c'est les cinq épiphanies de l'être, les cinq dévoilements de l'être. C'est merveilleux de voir ça. C'est beau de commencer la métaphysique par les cinq épiphanies de l'être. Et il faut bien comprendre qu'un être s'épanouit. Il s'épanouit. Parce qu'un être qui se manifeste, c'est un être qui s'épanouit. L'être s'épanouit à travers les sensibles propres. Et les cinq sensibles propres me donnent les cinq épanouissements de l'être. Les cinq manifestations. Ensuite,